Voilà, chers frères et sœurs, chers catéchumènes, peut-être que la première chose que nous avons à retenir aujourd'hui à travers ces textes de la Bible, eh bien, c'est que Dieu veut toucher nos cœurs. Voilà, tout à l'heure, on va vivre le scrutin, votre deuxième scrutin. C'est un mot technique, mais qui vient de ce psaume. Tu me connais, Seigneur, et tu sais, tu me scrutes. Voilà, tu connais quand je m'assieds, quand je me lève. Dieu vous connaît, mais il ne fait pas que vous connaître, Dieu veut vous transformer, et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous. Dieu veut vraiment agir, transformer notre cœur, transformer notre humanité. Vous voyez, quand Jésus prend de la boue pour pouvoir appuyer sur les yeux de l'aveugle, eh bien il fait le geste que Dieu a fait au tout début de la création, dans le deuxième chapitre de la Genèse. Dieu a pris de la boue, et il a façonné un homme, et il a donné un souffle de vie à cet homme-là, qui est devenu un être vivant. Jésus montre qu'il est venu pour renouveler la création et donc pour renouveler chacun d'entre nous. Que nous prenions conscience de cela. Être croyant, ce n'est pas simplement une posture personnelle où nous nous engageons, nous, par rapport à Dieu, mais être croyant, c'est accepter que Dieu vienne transformer quelque chose en nous. Comme David, à travers l'onction, Dieu vient transformer quelque chose en lui pour qu'il puisse vivre sa mission d'être roi. C'est... Tout à l'heure dans les prières, vous verrez que les deux choses sur lesquelles Dieu va venir toucher quelque chose, eh bien ça va être l'intelligence à travers le signe de la lumière. Voilà, vous allez dans le baptême être éclairé par Dieu pour pouvoir comprendre avec plus de profondeur la vérité du monde, comprendre la vérité de votre vie, comprendre et connaître Dieu lui-même avec encore plus de profondeur. Voilà, laissez votre intelligence être façonnée par la lumière de la foi. C'est la prière que vous êtes invité à faire dans ce temps qui vous sépare du baptême. Que nous puissions vraiment demander à Dieu que ce soit lui, qu'il soit l'auteur un peu de notre intelligence, qu'il soit lui qui éclaire notre intelligence pour le connaître. Et puis Dieu vient aussi toucher votre volonté. On appelle aussi les prières de scrutin, aussi les prières d'exorcisme. Alors je vous rassure, je ne suis pas le grand exorciste du diocèse, vous n'êtes pas des gens possédés par le démon, mais c'est une prière, entre guillemets, de délivrance aussi. Une prière pour que dire, voilà, vous êtes là pour être arraché, voilà, de tout attrait, de tout lien, entre guillemets, voilà, du démon, pour pouvoir retrouver la liberté intérieure que Dieu a voulu nous donner dans la création, parce que nous devons être enfants de Dieu, et donc libres pour aimer Dieu. Voilà, cette prière aussi, du coup, c'est sur votre volonté que ça va faire. Et donc Dieu vient renouveler aussi notre volonté pour désirer encore plus faire le bien, accomplir le bien qui est devant nous. Vous savez, parfois on voit très clairement qu'est-ce qu'il faut faire comme bien. C'est vrai au travail, c'est vrai en famille. Et pourtant, on n'en a pas vraiment le courage. Et donc on garde en fait la mauvaise habitude qu'on a pu avoir de faire cela. Vous savez, dans le temps du jeûne, du carême, c'est aussi faire l'expérience de ça. Quand on a l'habitude de prendre trop de chocolat, voilà, c'est l'exemple bête, c'est pour ça que je le prends, et ben, en fait, on découvre que souvent, même si on a très bien clairement en tête le fait qu'il faille arrêter de prendre du chocolat, et ben, on a quand même l'attrait pour y aller, et donc notre volonté, en fait, n'est pas libre totalement. Bon, il y a d'autres choses à faire que de se libérer du chocolat, certainement dans vos vies, mais c'est important de comprendre, voilà, comment ça marche aussi en nous, et de se dire, oui, des fois, en effet, il y a certains attraits qui peuvent demeurer, parce que notre volonté, en fait, elle est attachée à ça. Et ben, Dieu vient arracher, voilà, cette volonté attachée, pour vous rendre cette liberté. Nous tous, voilà, dans le carême, c'est cela que Dieu veut faire. Voilà, Dieu vient renouveler notre humanité, il vient vraiment la transformer. Demandons à Dieu d'être nous-mêmes très disposés à recevoir cette grâce-là. Mais ce n'est pas justement pour nous simplement qu'il le fait, sinon ça serait un peu trop égoïste comme façon de comprendre cela. Mais la rencontre de Jésus et de l'aveugle à la fin du texte est importante. Jésus lui dit « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme ?» Il lui dit « Qui est-il, Seigneur ?»« C'est moi, je le suis. » L'expression « fils de l'homme », on la connaît très bien parce que dans l'Évangile, elle revient très souvent. C'est comme cela que Jésus parle de lui-même. Cette expression, souvent, on la voit comme le fait de dire « Jésus parle de lui dans son humanité ». C'est comme ça qu'on l'a très longtemps compris. En fait, quand on lit bien la Bible, Jésus fait référence au chapitre 7 du livre de Daniel. Je vous invite à aller regarder ça ce soir ou dans la semaine. Et il y a en fait une vision que contemple Daniel. Daniel contemple la gloire de Dieu, il contemple Dieu, voilà, dans sa gloire, Dieu sur un trône, voilà, tout lumineux, tout plein de grandeur, de merveilles. Et en fait, à côté du trône de Dieu, il y a comme un fils d'homme qui est debout. S'il s'agissait vraiment d'un être humain, il ne serait pas debout, il serait prosterné devant le trône de Dieu, parce que c'est la juste attitude d'adoration que nous avons à avoir avec Dieu. Mais voilà que ce fils d'homme, comme un fils d'homme, il est debout à côté de Dieu et donc il est une figure divine. Quand Jésus dit « Crois-tu au fils de l'homme ?», il se présente en fait comme une figure divine présente sur cette terre. Et donc voilà pour vous, les catéchumènes, pour nous, les chrétiens déjà baptisés, eh bien que nous puissions découvrir qu'en fait croire, c'est pouvoir ouvrir les yeux sur la réalité du Christ, connaître le Christ, se découvrir aimé de lui et l'aimer en retour. C'est pour ça qu'on a demandé dans la prière d'ouverture, parce qu'on s'approche bientôt de la fin du carême, et bien d'avoir un amour encore plus généreux pour pouvoir vivre le carême. Voilà, que ce soit vraiment l'amour pour Dieu qui guide notre vie, l'amour pour le Christ qui a donné sa vie pour nous. Alors quand nous vivrons les derniers jours de Jésus, la semaine sainte, et bien nous aurons vraiment un attachement à lui beaucoup plus fort, parce que notre carême nous aura transformés là-dessus. Voilà, être chrétien, finalement, c'est savoir ouvrir les yeux sur le Christ, découvrir la grandeur, voilà, du mystère de la foi. Dieu a envoyé Jésus pour nous emmener tous au paradis dans la gloire de Dieu. Et le dernier aspect que je voulais voilà, commenter avec vous, c'est le début du texte. Donc Jésus s'arrête et il voit un aveugle et puis les apôtres aussi le voient et lui disent Jésus finalement, qui c'est qui a péché? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont ses parents? Tout ça. C'est une vision parfois un petit peu de la malédiction. On dit si t'es comme ça, c'est parce que Dieu il te punit. Voilà. Mais au-delà de ça, surtout ce que je voulais voir avec vous, c'est que le passage juste avant, voilà, et ben c'est Jésus part du temple parce que les pharisiens ont commencé à prendre des pierres pour les lancer sur Jésus. Et voilà, on m'a fait toucher du doigt cela dans la semaine, de dire que Jésus, en fait, il voit cet aveugle à un moment où il faut mieux prendre un peu la poudre d'escampette et se réfugier loin de la violence des pharisiens. Et pourtant, il prend le temps de s'arrêter, il prend le temps de rencontrer cet homme et de comprendre sa misère. C'est un peu comme dans le livre de David aussi. Samuel ne va pas à la facilité de dire « on va prendre le fils aîné parce que c'est le plus digne des fils de Jessé et c'est à lui qu'on va donner l'onction pour être le roi parce que c'est comme ça que ça marchera mieux. » Mais Dieu demande à Samuel d'attendre de voir le plus petit de la fratrie, celui qui, parce qu'il est le plus petit, on l'envoie faire la tâche, entre guillemets, la moins importante en quelque sorte, parce qu'il faut mieux, enfin par rapport au fait d'aller labourer des champs, d'aller faire les moissons et tout ça, c'est beaucoup plus pénible, donc les grands ils font ça, mais garder les troupeaux c'est pas trop pénible, parce qu'il suffit d'être l'approche d'eux et de veiller au loup. Et donc voilà, c'est celui-là que Dieu appelle à être le roi pour son peuple. C'est une invitation pour nous aussi à savoir regarder les plus petits, à savoir aussi prendre le temps, même dans des moments où ça peut être compliqué pour nous, eh bien de prendre le temps et de s'approcher des plus petits. Les plus petits, c'est ceux qu'on délaisse un petit peu dans nos vies quotidiennes. Ça peut être les pauvres, ceux qui sont à la rue et qui vivent un peu la misère du temps. Et quand il fait beau, c'est bien, mais quand il fait moche, c'est plus compliqué. Ça peut être telle personne dans dans notre lieu de travail qui peut être parfois délaissé, mis à l'écart, qu'on peut juger, critiquer, condamner parfois même. Ça peut être voilà telle ou telle personne aussi de la famille dont j'ai pas pris des nouvelles depuis très longtemps parce qu'on est un peu parti sur le principe qu'il fallait pas trop fréquenter cette personne-là. Peut-être que c'est l'occasion cette semaine d'entendre voilà que Jésus lui, eh bien il s'approche des plus petits, il va prendre le temps de les regarder et de contempler l'œuvre de Dieu possible en eux. Dieu veut faire des merveilles avec chacun d'entre nous, mais pas juste avec les gens qui sont bien dignes d'être ensemble à l'église, mais aussi avec ceux qui peuvent être encore à la porte, à la rue, et que nous puissions les amener vers le Christ pour qu'ils ouvrent les yeux à sa lumière. Amen.